France Musique.
Bonne journée Nicolas Lafitte et profitez bien de votre week-end.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, petit café. J'arrive.
Bonjour à tous. C'est l'heure matinale de votre rendez-vous avec les coulisses de la musique à Radio France dans Fabrication Maison. Ce matin, portrait de la hoboïste de l'Orchestre National de France, Nora Sismondi, puis reportage sur une rentrée pas comme les autres pour l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ensuite viendront nos rendez-vous habituels. À 8h20, la chronique de la Maison Ronde de Marie Fauché, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Patte à 8h30, la lettre d'un auditeur à 8h45 et notre feuilleton Question de cœur à 8h50. Allez, Fabrication Maison, c'est tout de suite.
France Musique.
Et dans la séquence portrait, ce matin, je vous le disais, nous recevons Nora Sismondi. Bonjour Nora.
Bonjour.
Alors Nora, vous êtes premier hautbois solo de l'Orchestre National de France depuis...
2006.
Première femme à entrer à ce pupitre.
Première femme à rentrer dans la petite harmonie de l'Orchestre National de France. Mmh. Mais depuis, il y en a de nombreuses qui m'ont rejoint.
C'est vrai. Alors Nora, je vous ai demandé un petit peu vos choix musicaux à vous. Et ce matin, vous nous permettez de retourner en enfance peut-être, on va dire.
Oui, depuis la naissance de ma fille, c'est vrai que je suis avide de bonne musique qu'on puisse partager avec les plus petits. Et donc moi, c'est la prise de son qui m'a émue là, de ce qu'on va entendre, vous allez voir.
Oh lélé, oh lélé, moliba makasi.
Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Boka na ye. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Kara a oya oya onginza a oya oya engela a oya oya kara a oya oya onginza a oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi
olele. Oh lélé, moliba makasi.
Est-ce que c'est joli?
Ouais, et puis hors antenne, on disait que ce qui est vachement agréable aussi, c'est que ça ouvre à l'improvisation, ce type de chanson qui est très ouverte avec une basse comme ça, une percue, et donc ça permet de continuer la chanson après avec son enfant.
Alors cet extrait d'une très jolie série d'ouvrages pour les enfants publiés chez Didier Jeunesse, et là ce sont les comptines et berceuse du baobab.
C'est ça.
J'aime aussi la présence des voix masculines pour chanter des berceuses aux enfants.
Mm-hmm. Et puis le livre-disque qui est de très très belle qualité avec des textures, enfin je sais pas comment rendre ça à l'antenne, mais enfin c'est vraiment très travaillé et les enfants apprécient beaucoup.
Alors, la pédagogie, c'est quelque chose qui vous préoccupe, Nora Sismondi ?
Oui, alors j'enseigne au CRR de Paris depuis 2011. Et donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'un petit, on se pose des questions et je creuse encore plus.
Et puis, l'Orchestre National de France s'est engagé dans des projets nombreux en direction des jeunes publics, des nouveaux publics.
Tout à fait. Alors, il y a une première, un abord à l'école, que ce soit du primaire au lycée. Et puis, depuis l'ouverture de notre bel auditorium, on propose aussi des concerts familles qui ont lieu les samedis matins à 11h. On peut d'ailleurs citer le prochain concert le 5 décembre. Ce concert-là est proposé à partir de 7 ans. Et le 17 décembre à 19h, pour les un petit peu plus grands, à partir de 10 ans, on aura un merveilleux concert fiction avec les musiciens, des comédiens, des bruiteurs sur scène. Et ce sera le roman de Mark Twain, Huckleberry Finn, qui sera adapté. C'est des très très bons moments à passer en famille.
Vous, les musiciens d'orchestre national, ce genre d'expérience, ça vous plaît ?
Ah, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup. Il y a eu Alice au Pays des Merveilles la saison dernière.
Dracula.
Ouais. C'est vraiment à chaque fois des super moments magiques.
Alors, deuxième choix, Nora Sismondi, Maurice Bourgo au bois, en compagnie du pianiste Jean-Bernard Pommier, dans une transcription de l'Abendlied de Schumann. Abendlied, chant du soir de Robert Schumann dans une transcription pour piano et hautbois.
Pour hautbois et piano, Dominique.
Excusez-moi Nora, c'est vrai, j'oubliais qu'il était mon invité. Alors, cette version, enfin, cette œuvre, vous l'avez connue, interprétée par Maurice Bourg et Jean-Bernard Pommier.
Alors, je ne l'ai pas connue, interprétée par Maurice Bourg, puisqu'au départ, c'est quand même une version pour violoncelle. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais c'est vrai que mon père spirituel, qui est Maurice Bourg, comme il l'est d'ailleurs de nombreuses générations de hautboïstes, cette version est particulièrement touchante et je trouve que... à l'âge qu'il a, il excelle toujours sur son instrument et ouais, ça reste vraiment une figure de proue pour nombre d'entre nous.
Les vents français, c'est une histoire, c'est une mythologie. Est-ce que c'est toujours une réalité? Un son, une qualité des vents français?
Alors, au niveau de la qualité, je pense qu'on a la chance d'avoir un enseignement vraiment de premier plan en France, qui commence déjà dans les conservatoires municipaux avec des cours personnalisés vraiment de très très bonne qualité. Et d'ailleurs, on défend ça au maximum parce que c'est vrai que avec les problèmes que connaît l'Europe en ce moment, on est obligé vraiment de se défendre et de défendre nos couleurs et notre mode d'enseignement, puisque il est question souvent de réduire les heures de cours, d'essayer de mutualiser au maximum. Et nous, on défend quand même cette entité, c'est cette marque française qui est ce besoin d'excellence. Et c'est pas parce qu'on apporte le meilleur pédagogiquement qu'on va forcément oublier les plus défavorisés. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Et pardon, je m'éloigne peut-être un petit peu du propos.
Non. En tout je trouve cas, ça important de dire ce genre
voilà,
de choses.
Oui, c'est important.
En effet, le conservatoire reste encore avec l'école un des lieux où de nombreux jeunes, et surtout dans le répertoire des vents et des bois, venant de milieux complètement pas musiciens, ont accédé à l'excellence internationale.
Il faut pas oublier qu'en France, on a accès au conservatoire. Alors c'est vrai que les accès, parfois, quand les villes sont surpeuplées, les accès sont difficiles, mais ça reste quand même des prix d'accès qui sont vraiment vraiment
raisonnables, abordables,
et qui sont calculés en fonction du quotient familial. Et donc on n'est pas du tout en train de privilégier une certaine caste au détriment des autres.
Un maître, c'est très important, donc c'est quelqu'un qui peut déclencher une vocation peut-être aussi. Parce qu'entre le plaisir qu'on a à jouer, nos racismes m'ont dit, et puis la décision qu'on prend de devenir un artiste professionnel.
Alors celle-là, cette décision-là, ça a surtout été dans mon cas grâce à mon premier professeur, qui est César Oniben, qui finit d'ailleurs sa carrière au CRR de Lyon cette année, et qui compte énormément pour moi et avec qui j'ai toujours gardé contact, et qui m'a transmis l'amour de la musique et l'amour de ce métier, pas tellement le hautbois en fait en général, mais juste ce mode de vie et cette transmission, et c'est ça aussi qui me porte dans les différents projets pédagogiques qu'on a évoqués tout à l'heure.
Alors, c'est pas parce qu'on aime le hautbois qu'on n'aime pas d'autres types de musique.
Il est 20h, j'attends qu'il meure. Notre bonheur était un leurre. Comme ça coûte cher de divorcer, c'est bien plus simple de le tuer. J'ai mélangé au rôti de porc, de l'aspirine, du médiator. Ça fait des morts propres et nettes, comme je l'ai vu sur internet. Puisqu'il a l'estomac fragile, qu'il est cardiaque et hémophile, c'est le crime parfait tout en douceur. Il est 20h, j'attends qu'il meure.
Mais je comprends pas, monsieur l'agent, ce qu'a pu vous raconter Samu. C'est pourtant simple, évident, cœur à lâcher, j'en sais pas plus.
À 22h30, je m'impatiente. J'ai peut-être été imprévoyante. Je vois qu'il s'agite et qu'il transpire. Il a pas l'air de vouloir mourir. Je vais lui donner son hydromel, assaisonné à l'antigel. Ça bouffe les reins et ça les nique, comme ils l'ont montré dans Derrick. Faut qu'il y passe, parce qu'il m'agace. Ça fait trop longtemps que ça traînasse et qu'il me prend pour sa servante. 22h30, je m'impatiente.
Mais je vous le dis, monsieur le commissaire, comme d'habitude, il avait bu. Quand il a pris son dernier verre, il a dû se tromper, j'en sais pas plus.
Il est minuit, c'est pas fini, et ça m'ennuie qu'il ait vomi. Il faut que ça cesse, c'est un cauchemar, je vais le noyer dans la baignoire. Glisser dans l'eau glacée, mais ça l'a tout revigoré. Le sèche-cheveux posé devant moi m'a fait penser à Claude François. Du 220 dans les gencives, ça m'étonnerait bien qu'il survive. En un éclair, le voilà cuit, il est minuit, et c'est fini.
Mais monsieur le juge, je vous l'assure, y bricolait toujours tout nu. Avec une telle désinvolture, je l'avais prévenu, mais j'en sais pas plus. Il est 3 heures et c'est l'horreur. Le choc a fait repartir son cœur. Là c'est la colère qui l'emporte. Je vais employer la manière forte. Je traîne le bonhomme au salon, une vieille cravate sous le menton. Qu'importe les traces laissées par terre, je sais comment faire grâce aux experts. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Tiens là, il fait bien moins le malin. Sans aucun remords, j'y tape dessus. Voilà l'aurore. Et j'en peux plus. Mais je vous le jure, monsieur le président, quand on voit ce qui traîne dans nos rues, faut pas s'étonner que les braves gens se fassent tuer chez eux. J'en dis pas plus. Somme bien méritée. 9 heures, ah, je n'ai plus la patience. Enfin, je vais voir si j'ai de la chance. Je veux savoir ce qu'il y a dans le contrat. J'appelle Cerise de Groupama. Ah, quand je pense au coût de la vie, va me falloir un nouveau mari. Un peu plus riche que les 3 derniers et un peu plus facile à tuer. C'est pas de ma faute, monsieur les jurés. Les belles promesses, j'y croirais plus. Moi, que tant besoin d'être aimé. À chaque fois, je suis déçue.
Merveilleux, merci Nora Sismondi. C'est ouais, un vrai sourire.
Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on évoquait avant, mais c'est vrai que ce qui est hyper agréable, c'est que comme c'est vraiment une musicienne accomplie, pardon Juliette, non seulement elle a des paroles croustillantes, mais en plus pour mes oreilles musiciennes, il y a énormément de citations et de petits clins d'œil musicaux notamment dans cette chanson, mais dans tous ces albums qui sont hyper agréables.
Oui, on sent que la musique n'est pas là comme un décor sonore, mais c'est comme une espèce de réponse aux
Absolument,
paroles.
Ouais. Oui. Elle a vraiment de très très bons musiciens, elle-même excellente pianiste. Fille de tromboniste qui était au Capitole de Toulouse.
Ah, vous savez tout. Et Juliette, en plus, est en lien avec l'Orchestre National de France parce que c'est quelqu'un qui a mené un projet pédagogique avec vous. Donc,
oui,
vous avez fait un concert.
En fait, on a fait un concert, mais j'espère et je crois qu'il y a des projets pédagogiques qui sont en cours. Bon, elle-même, d'ailleurs, on peut citer son actualité en regardant un petit peu son site. Je me suis rendu compte que la comédie musicale qu'elle a créée l'an dernier avec le Créal d'Aulnay-sous-Bois au Théâtre de Châtelet.
C'est un cœur d'enfant amateur, oui.
Le livre-disque et le CD vont sortir au mois d'octobre.
Formidable, merci Nora. Alors on reste dans le domaine de l'opéra, mais un peu plus sérieux.
Thank you.
Alors c'était un extrait de l'Enchantement du Vendredi Saint, extrait du Parsifal de Wagner, mm-hmm. Noracis Mondi. Daniel Egatti est à la tête de l'Orchestre National de France. Wagner, c'est un compositeur qui irrigue quand même assez régulièrement l'Orchestre National depuis que Daniel Egatti est arrivé.
Et oui, grâce à ce wagnérien de tout premier plan, il a été invité au Met, au Festival de Salzbourg, à Bayreuth également. Il est vraiment reconnu internationalement pour son travail avec Wagner. Et donc, forcément, ça rejaillit sur l'Orchestre National. Cette année, on a le plaisir d'interpréter au mois de mai, entre le 12 et le 24, son Tristan et Isolde, dans une mise en scène de Pierre Audi, au Théâtre des Champs-Élysées.
Parce que Wagner, ça ne vous est pas inconnu. Il y a déjà eu une production wagnérienne.
En 2010. En 2010. On a joué plusieurs fois le Parsifal en version scénique. Ouais.
Wagner, est-ce que c'est un compositeur que l'Orchestre National connaissait, fréquentait, vous pensez ?
Alors, j'ai pas forcément énormément de recul puisque j'ai intégré l'orchestre en 2006, mais c'est vrai que ça fait partie. Tous les préludes, etc., sont joués relativement souvent, mais c'est pas forcément un répertoire qu'on avait énormément joué sous l'ère Mazur. Et donc là, ouais, c'est une ouverture vraiment sur cette musique-là. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de plaisir à interpréter le Richard Strauss, le concerto, cette semaine avec Gatti, puisque dans la filiation de Wagner, on trouve Richard Strauss. Et de la même manière, Daniel Egatti a une conception de cette musique qui est vraiment très, très profonde et très intéressante.
C'est différent, Noracis Mondi, d'être musicien d'orchestre et musicien de fosse d'une certaine façon.
Ah oui, oui, tout à fait. Et puis je peux le dire, puisque j'ai passé sept saisons au sein de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris. C'est un moment que j'ai vraiment apprécié. Mais c'est vrai que j'étais contente de découvrir autre chose aussi avec le symphonique. Oui, c'est un mode de vie vraiment, l'opéra. D'ailleurs, il y a des familles entières de musiciens, on se rend pas compte, mais il y a des dynasties vraiment dans la fosse. Non pas que ce soit des jurys et des concours pipés pour faire entrer les musiciens, mais c'est vraiment déjà un amour du lyrique et du ballet, et puis un mode de vie dans le sens où il y a des répétitions le matin, des répétitions le soir, c'est vraiment des noctambules, les musiciens d'opéra. Et puis, le fait de mal accès comme ça les œuvres, de les rejouer 12-14 fois par saison, de les retrouver la saison suivante, eh bien il y a une écoute différente, il y a une intimité entre les musiciens qui est différente et qui est passionnante et en même temps parfois un peu destructrice, je trouve.
Allez, on se quitte avec un petit cadeau que vous nous offrez pour terminer ce portrait. La mélodie hongroise de 817 de Schubert, sous les doigts d'Alfred Brendel. C'est une musique qui vous accompagne, Nora
Sismondi ? Oui, c'est non seulement cette musique donc très profonde, très raffinée, et puis je trouve que l'interprétation très épurée et très noble d'Alfred Brendel, j'espère, va permettre aux auditeurs de passer un excellent week-end.
C'est gentil pour eux, merci. Vos projets, Nora, rapidement, c'est...
Alors, musique française, avec un coffret du Tilleux, qui c'est un coffret sous la direction de Mathieu Dupouille, qui a fondé une petite maison d'édition, qui a beaucoup de succès, avec beaucoup de FFFF Télérama. Donc, je suis très très fière de participer à ce projet. Et puis, également, un coffret Jolivet, que je vais enregistrer en 2015, mais qui sortira sûrement en 2017.
Nora Sismondi, et puis on peut évidemment vous retrouver au sein de l'Orchestre National de
Bien
France.
Bien sûr,
de regarder
chaque semaine.
Au milieu, elle est au milieu.
C'est la petite, là.
C'est la petite. Merci, Nora.
Merci pour votre invitation.
Et une petite information de dernière minute. François Morel signera le livre-disque « Pierre et le loup » dont il est le narrateur. Aujourd'hui, à la librairie L'Usage du Monde, dans le 17e arrondissement à Paris. Il sera en compagnie des musiciens de l'Orchestre National. C'est entre 13h45 et 15h45. C'est une rentrée pas tout à fait comme les autres pour l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'année dernière, à la même époque, l'auditorium de Radio France n'avait pas encore ouvert ses portes, mais les musiciens retrouvaient, pour la 16e année consécutive, un chef qu'ils avaient appris à bien connaître, Myu Woon Chung. Comme vous le savez, si vous nous suivez, le jeune chef finlandais Mikko Frank vient de le remplacer à la tête de l'orchestre. Comment cela est-il perçu par les uns et les autres? Nous passons côté coulisses. Bonjour Hélène Collerette.
Bonjour.
Alors Hélène, vous êtes premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Radio France depuis ?
Depuis 19 ans.
Mais quand même.
Oui, quand même.
Est-ce que vous diriez que vraiment c'est une rentrée pas comme les autres et que ça se sent au sein de l'orchestre ?
Ben forcément, c'est une rentrée où on accueille notre nouveau chef, qu'on connaît quand même depuis plusieurs années, mais bon, c'est toute une dynamique qui change. Donc oui, c'est une rentrée un petit peu exceptionnelle.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est une dynamique qui change ?
Parce que forcément, l'interprétation ne va pas dans le même sens, ce qui est heureux d'ailleurs, qu'il y ait des différences entre les chefs. Et aussi, le tempérament, tout change un petit peu. Donc il va modeler l'orchestre d'une manière différente. Même le son certainement va changer. Voilà. Donc c'est un petit peu... comment je pourrais dire ? Oui, une petite transformation de l'orchestre.
Qu'est-ce qu'il est, un orchestre à son chef ?
Mais forcément, quand on entend parler d'une certaine manière d'appréhender le son, quand on voit une certaine énergie qui est dégagée lors des concerts et des répétitions d'ailleurs, au bout d'un certain moment, on sait où ce chef veut aller, quoi. Il y a son empreinte même quand il n'est pas là. Et puis, il y a eu beaucoup de jeunes recrues, justement, ces 19 dernières années, forcément. Et ce qui fait que ces jeunes recrues, et moins jeunes maintenant, sont entrées sous la direction de Myu Woon Chung, qui a pu les modeler tout de suite, justement. Donc forcément, il y a eu son empreinte dès le départ sur ces gens-là.
Hélène Collerette, qu'est-ce que vous diriez du son que souhaitait Chung ? Qu'est-ce qu'il cherchait avec l'orchestre ?
Il souhaitait une patte très riche. C'est vrai qu'il a travaillé beaucoup avec les violons au début parce que il voulait aussi un certain velouté, une certaine richesse, que ce soit jamais criard, voilà. Mais il aimait aussi beaucoup au niveau de l'orchestre l'éclat.
Une certaine brillance du son.
En général, une certaine brillance du son, mais que ce soit pas dur, que ce soit dans la richesse.
Alors, Hélène Collerette, quel objectif de Mikko Franck, est-ce qu'il est il a déjà, non, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en même temps, vous me dites que vous le connaissez. Donc, est-ce que vous sentez qu'il a une vision de l'orchestre qui est un petit peu différente de celle du maestro Schunk, pour l'espérer d'ailleurs?
Oui, alors moi, ce que j'aime beaucoup avec Mikko Franck, c'est qu'il est énormément dans le respect du texte des compositeurs, donc pour des petits détails. Il ne laisse pas son ego avant le compositeur. Il met vraiment toujours le compositeur en avant. Et après, bon, il a l'énergie, la musicalité qu'on lui connaît, donc ça transcende un peu tout ça.
Donc ça change, il y a une espèce d'exigence, il est très près du texte, il vous fait reprendre.
Oui, exactement. Très très près du texte, le moindre crescendo, il faut vraiment que ça aille jusqu'où c'est écrit et qu'on diminue seulement à partir de tel endroit où ça commence. Alors que c'est vrai qu'on peut se laisser aller, en tout cas je parle de nous les cordes, on peut se laisser aller avec les coups d'archet qui vont parfois nous guider. Là c'est pas ça, c'est vraiment on fait ce qui est écrit et il y a la musique qui vient avec ça évidemment.
Alors, vous n'êtes pas seule, Hélène Collerette. Nous sommes avec Lorraine Campet. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'orchestre, vous ?
Eh bien, j'ai passé le concours en avril et j'ai commencé en septembre. Et je suis au pupitre de contrebasse.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 18 ans.
Donc, c'est toute une histoire de rentrer dans cet orchestre, non ?
Oui, pour moi, c'était un rêve, en fait. C'est un orchestre que... Enfin, j'allais voir ses concerts depuis des années. Quand il y a eu ce concours qui s'est présenté, je l'ai passé en me disant, bon, bah... J'aimerais beaucoup rentrer, mais bon, je suis pas toute seule.
Alors pour vous, c'est quoi l'orchestre philharmonique en termes de son, en termes d'ambiance, ou qu'est-ce que vous diriez comme ça sur des premières impressions d'orchestre ?
Eh bien, en termes de son, moi j'ai l'impression que dans cet orchestre-là, il y a une énergie qui est assez exceptionnelle, venant de tout le monde. C'est que c'est pas, il n'y a pas un leader, et puis les autres qui suivent un peu derrière. C'est vraiment, on sent une espèce de besoin collectif de ressortir cette énergie. Incroyable, et puis avec le chef qu'on a, ça nous porte. J'étais déjà venue comme supplémentaire ou en académie aussi, et on est reçu comme si on était là depuis 20 ans. On fait partie de l'orchestre le temps d'un concert ou d'une série, donc c'est assez exceptionnel.
Je voudrais juste faire une petite parenthèse à propos de Lorraine, c'est qu'elle est quand même rentrée à une place de soliste directement, ce qui est assez exceptionnel, et que Lorraine, en plus d'être une étoile de la contrebasse, est aussi une grande violoniste, ce qui est tout à fait étonnant. Donc vraiment, nous avons une recrue exceptionnelle.
Qu'est-ce que le fait de jouer dans l'auditorium, Hélène ou Lorraine, apporte à l'orchestre, vous en tant que musicien? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est un outil assez formidable pour nous parce que justement, on peut vraiment travailler sur la sonorité qu'on veut développer. Puisqu'on ne bouge pas de salle, on reste là, on travaille, on fait les répétitions dans la salle, donc on peut savoir où on veut aller. Donc on s'habitue petit à petit à la salle, c'est comme pour un instrumentiste avec son instrument.
En fait, la salle fait partie des instruments de l'orchestre.
Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ouais. ça, avec tout ce bois qui réfléchit, une certaine chaleur en effet, oui.
Vous, Lorraine, je crois que pour les contrebasses, il y a un truc avec les graves dans cette salle, non ?
Bah les graves sonnent très bien, c'est pas le cas de toutes les salles en effet. Comme c'est la principale salle de concert, c'est au mieux en fait, le top de ce qu'on pourrait avoir, et c'est une salle magnifique, tant esthétiquement qu'au niveau de l'acoustique.
Beau programme ce week-end, et puis alors en plus un truc rigolo avec un écran sur lequel vous allez finalement naviguer dans les planètes de l'univers, grâce à Holst, mais aussi grâce à la NASA je crois, non ? Vous n'avez pas encore vu le film ?
Non, on n'a pas encore vu le film, on nous en a parlé, et en effet il paraît que ça nous vient de la NASA. J'adore tout ce qui est astronomie, donc ah oui, oui, donc ça va me plaire, je pense. Bon, il va falloir que je regarde quand même ma partition en jouant, mais...
J'ai également demandé aux régisseurs Adrien Hippolyte et Philippe Lebourg en quoi cette rentrée n'était pas tout à fait ordinaire. Alors, est-ce que la rentrée de l'Orchestre Philharmonique cette année, c'est une rentrée comme les autres ?
Non, parce qu'en fait, on a un nouveau directeur musical, Mikko Franck. Voilà, donc c'est une rentrée toute particulière.
Philippe ?
Pour moi, c'est surtout le fait de rentrer dès le début de saison dans le nouvel auditorium de la radio, qui est quand même un très bel outil. Donc pour moi, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est des concerts de début de saison avec une belle programmation, du public, dans très bonnes conditions pour le public surtout, pour le chef, pour les musiciens. Donc ça, c'est plaisant.
Et pas vous alors ? Non, mais je vois ça parce qu'en fait, on est face à la scène de l'auditorium est absolument couverte de chaises, de pupitres et d'instruments. Ça commence assez fort quand même là pour vous deux à la régie.
Là, en fait, on commence quand même par des grosses formations, des grosses productions. En plus, cette année, je pense que l'orchestre a à cœur de régulièrement faire des œuvres contemporaines. Donc voilà, sur le plateau, vous pouvez voir beaucoup de percussions, beaucoup d'instruments lourds. Donc ça demande beaucoup de logistique, de travail de préparation. C'est une rentrée qui porte beaucoup de beaux projets, je pense, pour l'orchestre, et qui justifie vraiment ce que l'orchestre est à la base, c'est-à-dire un orchestre à géométrie variable. Et elle le défend beaucoup en ce moment, elle veut le défendre pour la suite, et c'est un intérêt pour nous tous, parce que nous, ça permet d'avoir au jour le jour des projets complètement différents, donc ça nous apporte de la matière, ça apporte de la matière aux musiciens, et aussi au public, parce que vous pouvez très bien avoir un concert petite formation, du grand répertoire, voilà, qui est dans l'intime, et puis avoir des grands orchestres de création.
Ce qui peut être bien, j'espère, pour cette saison-là et là, les programmations qui ont été établies, c'est un peu de commencer à désacraliser l'œuvre symphonique, la musique classique, entre guillemets. Donc essayer d'amener un nouveau public aussi à travers des œuvres majeures, mais aussi de la musique de notre temps, avec d'autres sons qui ne sont pas les sons amplifiés, qui sont les sons qui venant de vrais instruments. Donc il y a une palette sonore aussi très intéressante qui permet peut-être un petit peu de renouveler aussi... rafraîchir, j'ai envie de dire, ses oreilles par rapport à tout ce qu'on entend, à la musique électronique, tout ça, c'est bien aussi. Mais c'est moi qui ai fait beaucoup de rock, des choses comme ça. Je sais qu'à un moment donné, pour rééduquer mes oreilles, j'ai adoré venir écouter des orchestres et de la grande musique.
Thank you. enregistré le 25 juin 2014 le prélude à l'après-midi d'un faune que Mikko Franck dirigeait à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'Orchestre Philharmonique donnait hier soir un très beau concert, vous l'avez peut-être entendu en direct sur France Musique, avec entre autres ces fameuses planètes de Holst, avec derrière l'orchestre l'écran géant projetant un film de la NASA. Le film, vous ne pouvez pas le voir, mais le concert qui était donc en direct hier, vous pouvez le réécouter pendant 30 jours sur le site de France Musique. Et voici venu le moment de la chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Vous savez Dominique que ce matin le soleil s'est levé à 7h52 très précisément.
Ah non, pas du tout.
Ouais, ça c'est mon petit côté Miss Météo. Allez, allons, faisons entrer plus de lumière encore dans cette nouvelle journée qui commence. On y voit un peu plus clair, non, Dominique, vous trouvez pas ?
Eh oui, c'est vrai.
Rokana, ça veut dire chambre de lumière, et c'est une invention de la compositrice coréenne Eun-Suk Shin. Elle fait de l'orchestre une machine à illusion, un peu comme s'il était un kaléidoscope. Ça brille, ça aveugle presque, et parfois ça s'obscurcit.
Alors, Eun-Suk Shin est à l'honneur la semaine prochaine à la Maison de la Radio, dans le cadre du Festival d'automne. Est-ce que vous nous en dites un peu plus sur cette compositrice, Marie Fauché ?
Oui, bien sûr. Alors, Eun-Suk Shin est née en Corée en 1961. Elle vit en Allemagne depuis les années 80. Elle n'est pas issue d'une famille de musiciens. Son père était pasteur presbytérien. Elle découvre la musique de Beethoven, Tchaïkovski en écoutant la radio. Et puis, de fil en aiguille, elle découvre Bartok, Stravinsky. Et après ça, dit-elle, je n'avais aucune résistance à vaincre pour écouter des musiques nouvelles comme Boulez ou Stockhausen.
C'était la toccata d'Eun-Suk Shin, interprétée par Claire Hammond.
Ce qui domine l'œuvre d'Eun-Suk Shin, c'est la variété de son style. C'est d'ailleurs peut-être son point commun avec Ligeti. Eun-Suk Shin a une recherche très colorée, très riche. Elle est partout, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Sa musique est très occidentale, mais parfois avec des références orientales. Elle peut être consonante, spectrale, répétitive, tout ça successivement. Et pourtant, et c'est très étonnant à constater, elle est reconnaissable entre toutes. Un peu sommairement, je dirais que c'est parce que cette musique est dominée par quelque chose de très joyeux, de très vif, d'éminemment rapide, non pas dans l'allure, mais dans le passage d'une idée à l'autre. Comme quelqu'un dont le discours serait rebondissant et nourri de mille astuces sans jamais nous perdre. Vous ne trouvez pas que c'est assez féminin, ça, Dominique ?
Si vous le dites, Marie.
Eun-Suk Shin est une princesse dont la musique accroche nos oreilles comme autant de diamants sur une parure. C'est précieux, mais ça n'est jamais vulgaire. Rien d'étonnant alors que son univers soit si souvent celui du rêve et du conte de fées.
Do Mi Fa Re, la cinquième scène de Conte de Fées extraite des Acrosticon Wörthspiel, interprétée par Pia Comsi et l'ensemble intercontemporain dirigé par David Robertson.
L'univers d'Unsung Chin est celui du merveilleux. Elle a des dizaines de visages qu'elle nous donne à contempler et parfois elle nous fait passer au travers du miroir, comme ici dans son opéra Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. Tout de suite, la scène du thé avec Alice, le chapelier fou et le lièvre de Mars.
Have you guessed yet? Why is a raven like a writing desk? No!
Because a writing desk is a desk for things, and a raven is a desk for lens!
No!
He moves, but big in
my head! No! On good terms, but we quarreled last March, just before he went mad. At the great concert given by the Queen of Hearts, where I sang, Twinkle, twinkle, little bat, how I wonder what you're at. You know this song, perhaps?
I've heard something like it.
Up, 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 where you fly, like an ashtray in the sky.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, sprinkle, little stew, how I wonder what you are. Twinkle, sprinkle, twinkle, twinkle, little moon, sprinkle, twinkle, moon, sprinkle, sprinkle, twinkle, twinkle, sprinkle, star, twinkle. Now I wonder what you call tangle, tangle, giggle, tease. Oh, I wonder how you dig.
Twinkle, 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 twinkle,
how you feel. Twinkle, little star, oh, I wonder what you are.
Un extrait d'Alice in Wonderland d'Usung Chin lors de sa création à Munich en 2007 avec Sally Matthews dans le rôle d'Alice, Dietrich Henschel, le chapelier fou, et Andrew Watts, le lièvre de Mars.
Et comme Radio France avec le festival d'automne fête la compositrice coréenne, je vous suggère à tous de venir vous rafraîchir les vendredis 9 et samedi 10 octobre, le vendredi 9 à 20h avec l'orchestre philharmonique de Radio France et le samedi 10 à 16h puis à 20h. On pourra d'ailleurs entendre une suite réalisée par la compositrice à partir de cet opéra, samedi à 20h avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique.
Et si vous écoutez cette émission jusqu'au bout, vous aurez peut-être une bonne surprise. Merci Marie Fauché.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors nous continuons à explorer avec vous, je l'espère, l'histoire de la radio.
Oui, et nous continuons en compagnie de Radio PTT qui, figurez-vous, après avoir connu les succès des postes parisiens, ouvre des antennes en province.
Et ça, c'est la preuve d'un vrai succès.
Voilà, et c'est le cas à Lyon, où il y a une radio très cultivée qui s'installe, et d'ailleurs même il y aura dans ces années-là deux postes lyonnais, Radio Lyon et Radio Lyon-Ladoua. Donc, une petite guerre entre les deux, à savoir qui aurait les meilleurs programmes. Eh bien, on peut se faire une idée un petit peu de ce qui se passait, puisque à Lyon, c'est quand même une grande capitale, il y a un théâtre, vous le savez, un grand théâtre lyrique, qui est aujourd'hui un opéra. Vous avez quand même des institutions extrêmement intéressantes pour les amis de la culture, vous avez une cathédrale avec des orgues somptueuses. Donc les artistes viennent. Et parmi les artistes qui viennent, il y a un type qui s'appelle Alfred Cortot. Je ne me souviens plus.
Qui vous dites ?
Alfred Cortot. Il paraît que c'était pas très bien au début. Jeune enfant, on disait de lui qu'il était doué pour le piano, mais sans plus, que ça n'avait aucun intérêt. Il a eu du mal. Et puis finalement, après avoir tâté une carrière de chef d'orchestre, il s'est remis au piano. Et finalement, c'était pas si mal, je crois. Enfin, on va en juger.
Thank you.
C'était donc le premier mouvement de la sonatine de Maurice Ravel, interprété par Alfred Cortot, de passage à Lyon alors.
De passage à Lyon, oui. Alors évidemment, le disque, il l'a enregistré à Londres en 1931. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on s'éloigne un petit peu du Cortot traditionnel, presque de la carte postale qui s'est faite avec le temps, où on le voit toujours attaché à Chopin, au romantique, etc. Et finalement, là, il joue la musique de son temps.
Et il la joue très bien, il la joue avec une jolie transparence, même si ça crache un petit peu.
Ça, c'est parce que vous êtes fâché. Alors, puisque nous sommes à Lyon et que nous écoutons la musique contemporaine, eh bien, nous allons nous tourner vers Jean-Sébastien Bach.
Allez, hop.
Il y avait à Lyon un organiste absolument célèbre, fameux dans le monde entier, paraît-il, d'une modestie et d'une courtoisie absolument délicieuse, qui s'appelait Édouard Comette. Et Édouard Comette a été enregistré dès la fin des années 30, et ça nous permet de profiter non seulement du style avec lequel on interprétait les grandes œuvres du passé, mais aussi de la beauté des orgues, qui ont été relevés d'ailleurs en 1935. Et évidemment, ça nous permet aussi d'entrer un petit peu plus, de manière plus intime, dans l'esprit des Lyonnais, dans cette radio lyonnaise, en entrant dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Et écoutons donc la cantate du Veilleur, le choral de la cantate du Veilleur, numéro 140 de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Agréable pour se réveiller le matin, ce choral du veilleur de Jean-Sébastien Bach, joué par donc une star de la vie organique lyonnaise, Édouard Comette. J'allais dire Gomette. Disque Columbia, Lyon, cathédrale Saint-Jean, 1938. Ça va, j'ai tout dit ?
Ça va, vous avez tout dit, vous êtes parfaite. Alors nous allons continuer notre petit voyage dans le temps avec une résurrection, vous savez, dans l'immédiat après-guerre. Alors là, on franchit carrément les limites du temps. D'habitude, je m'arrête toujours dans les années 30, mais là, bon, paf, j'ai glissé. Et donc nous arrivons en 1947 avec la résurrection du De Profundis de Richard de Lalande, d'après une réalisation d'André Cellier. Et c'est Louis Noguera, le grand baryton basse qui commence sa carrière juste à la fin de la guerre, qui assume le rôle, le premier rôle, si on peut dire, du verset de cette magnifique prestation, que je vous propose d'écouter tout de suite avec les Jeunesses Musicales de France.
C'est donc,
c'est donc un grand moment, il faut bien le dire. Vous avez des tas du beau monde, vous avez encore une fois de l'orgue tenu par Henriette Roget, qui joue aussi du piano, accessoirement dans un grand nombre de disques. On en a écouté plusieurs cette dernières années, et le tout est placé sous la direction de Louis Martini, le tout n'étant rien d'autre que le concert colonne. Bon, pas trop mal.
De Profundis.
Thank you.
Vous aviez raison, j'arrive pas de cette impressionnante.
C'est impressionnant, ça fait partie des premières grandes œuvres chorales enregistrées. Évidemment, il faut bien imaginer qu'on se précipitait au concert dans les cathédrales pour redécouvrir ce répertoire. Et donc,
Richard de la Lande.
Voilà, Radio Long, c'en est fait l'écho.
C'est un disque pâté, 1947.
Et on se dit à la semaine prochaine.
Allez, on se dit à la semaine prochaine.
On bougera encore.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé André Thibault. Ce 14 octobre, papa aurait eu 100 ans. Comme pour tous les hommes de sa génération, les deux guerres bouleversèrent sa vie. Né en 1915, fils de soldat, il fut à son tour mobilisé en 1939. Le 28 mai 1940, peu avant la signature de l'armistice, il fut fait prisonnier et envoyé dans un stalag à Görlitz en Silésie. Il fallait remplacer dans les fermes et les usines allemandes les hommes occupés sur les différents fronts. À nous, ses enfants, il ne parlait jamais de sa captivité. Il nous disait juste qu'il avait eu très faim et très froid, qu'il ne pouvait pas oublier. Il avait eu un pied gelé. Il ajoutait aussi parfois que si pour eux les soldats français c'était l'enfer, il n'en était pas de même pour les officiers allemands qui les gardaient. Ils organisaient des réceptions, passaient de bonnes soirées, où les soldats français musiciens qui se trouvaient parmi eux étaient réquisitionnés pour animer les bals ou donner des concerts. D'Olivier Messiaen, je ne savais pratiquement rien, jusqu'à ce que mes élèves auxquels je faisais écouter Bach, Beethoven, Bizet, Verdi, Ravel, me posent cette question. Mais enfin, des compositeurs de musique classique, il n'y en a que des morts ? Je me rendis chez un disquaire à Reims qui me fit écouter des œuvres de divers compositeurs vivants. Trois petites liturgies de la présence divine retinrent mon attention comme pouvant intéresser de jeunes enfants. Cette année-là, en 1983, fut créé l'opéra Saint-François d'Assise, ce qui nous permit de lire beaucoup d'articles de journaux et de voir des émissions à la télévision. Lors de flânerie musicale de Reims, fut programmé un jour le quatuor pour la fin du temps. Rien n'était précisé dans le programme sur les circonstances de l'écriture de cette œuvre. Je ressortis de là, pleine d'une émotion indicible, comme transportée. Au fil des ans, cette œuvre fut donnée plusieurs fois. J'y suis allée à chaque fois. Peu à peu, des choses étaient précisées dans le programme. Le doute commençait à m'habiter. À chaque fois, j'étais toujours aussi bouleversée. Avais-je ressenti le lien que mon père avait avec cette œuvre ? Il ne citait jamais le nom de Messiaen. Il ne connaissait probablement pas le quatuor pour la fin du temps. Mon père mourut en 1986. Lorsque ma mère mourut à son tour en 2008, on célébrait le centenaire de la naissance d'Olivier Messiaen. En vidant la maison familiale, j'eus accès au livret militaire de mon père. J'achetais aussi le numéro de Diapason qui était consacré au grand musicien. Et là, le doute fut levé. Ce n'était plus une impression ni une coïncidence. Noir sur blanc, dans les deux documents, Görlitz Stalag 8A, 28 mai 1940, 1er mars 1941. Thank you. Pour illustrer le souvenir d'André Thibault, que je remercie, nous avons écouté tout d'abord un extrait des Trois Petites Liturgies de la Présence Divine d'Olivier Messiaen par l'Orchestre Philharmonique de Radio France que dirigeait Mi Hoon Chung, puis un extrait de son quatuor pour la fin du temps par le quatuor Olivier Messiaen. Vos souvenirs sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à m'écrire. Sophie Jeannin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors pour Fabrication Maison, Sophie, vous répondez chaque samedi aux questions que peuvent se poser chefs de chœur, professeurs de musique ou chanteurs. Et en ce mois d'octobre, nous avons choisi d'entrer un peu plus en détail dans certaines techniques vocales. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi peut-il être préférable de commencer une répétition avec un chœur ou une maîtrise par un échauffement ?
Alors, l'échauffement vocal ou la mise en voix n'est pas obligatoire. Il y a des chefs de chœur qui démarrent tout de suite le répertoire. Et moi, je l'aime beaucoup. Et il y a pour moi trois raisons principales. Et non seulement pour trouver une aisance vocale et de placer sa voix de façon vocale et chantant, mais il y a également l'aspect de concentration, de se trouver ensemble en groupe pour se concentrer dans le silence. On est centré sur soi-même. Et la troisième raison pour moi, le troisième volet, c'est vraiment de trouver l'homogénéité du timbre, trouver de comment chanter avec les autres. Et c'est vrai que quand on détache le répertoire de ça, on n'est pas affronté à toutes ces autres difficultés et avec des exercices simples et avec une focalisation sur la projection de certaines voyelles, sur l'émission même de la voix, et ça nous permet de faire ce travail-là sans contraindre les chanteurs avec les difficultés musicales.
C'est un peu comme quand l'orchestre s'accorde.
Tout à fait. C'est comme l'orchestre s'accorde. Et puis, en plus de cela, c'est vrai que le chant, c'est notre instrument, c'est notre corps. Et quand on chante, on n'est pas nécessairement dans notre posture de notre travail tous les jours. Là, je parle des chœurs amateurs ou une maîtrise, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà trouver cette position et cette disponibilité pour pouvoir chanter.
Et pour illustrer les propos de Sophie Jeannin, nous écoutions l'une des chansons populaires à trois voix de Daniel Lesur, chantée par la maîtrise de Radio France que dirige Sophie Jeannin, et extraite du disque que la maîtrise a fait paraître cette année et qui s'appelle Carnet de bord. «
À l'occasion de l'année France-Corée et en coproduction avec le Festival d'automne à Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France invite Hoon Sung-jin et ses œuvres les 9 et 10 octobre, comme vous le disait tout à l'heure Marie Fauché, et donne la parole à de jeunes compositeurs, coréens eux-mêmes, invités par Hoon Sung-jin. Le Nieuwe Ensemble d'Amsterdam, qui joue les œuvres d'Hoon Sung-jin depuis de nombreuses années, enrichira ce portrait. Une musique virtuose, comme le prouvent ses concertos pour piano et pour violoncelle, interprétée par deux très jeunes solistes, Sunwoon Kim et Inzang Enders. Une musique lyrique aussi, comme en témoigne la suite tirée de son opéra Alice in Wonderland. Des pages de Claude Debussy, de Isang Young et de Giorgi Ligeti complètent ses programmes. Fabrication Maison vous invite à assister à l'un de ses concerts découvertes le 9 octobre à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio. Pour gagner ses places, c'est tout simple. Vous allez sur la page Fabrication Maison du site de France Musique et vous vous inscrivez. Bonne chance! Merci à Pauline Boisaubert qui a préparé cette émission, à Cyrielle Weber qui l'a réalisée, avec la complicité de Jean-Louis Deloncle. À très vite.